Bonjour et bienvenue autour du piano blanc. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par la musique de l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir un de mes collaborateurs de longue date. J'ai nommé M. Jamil Azaoui. Alors, la musique a été présente pour lui à divers moments de sa vie et dans des situations qui sont vraiment toutes plus différentes les unes que les autres. Jamil a été gérant d'artiste, il a été directeur promo radio, il a été artiste lui-même, il a chanté en marchant Compostelle. Et plus encore, je trouvais que c'était quelqu'un qui allait assurément nous amener vers une discussion des plus riches. Alors, bonjour Jamil, écoute, j'aimerais savoir... Ouais, tu peux me dire bonjour, hein?
Bonjour.
Alors là, vous ne nous voyez pas, mais on a eu un petit problème de micro. Alors, Jamil et moi, on se partage le micro. Ceci dit, je pense que l'entretien va être tout aussi intéressant parce que, comme je le disais à Jamil avant l'entrevue, moi, je pose deux questions et lui, assurément, il pourra vous parler pendant une demi-heure. Donc, j'ai aucun questionnement, aucune crainte par rapport à tout ça. J'aimerais savoir, première question, Jamil, ça va être quelque chose d'assez large. Je veux savoir quel est le rôle principal qu'a eu la musique dans ta vie? Parce que, comme je le disais, tu as eu plusieurs chapeaux, mais qu'est-ce qui a été le fil rouge? Qu'est-ce qui a fait que tu en fais encore aujourd'hui de la musique puis ça fait encore beaucoup partie de ta vie?
Ça a commencé au Maroc. J'étais malheureux, moi, au Maroc. J'ai été déraciné 3 fois. Et puis, je suis arrivé au Maroc, j'avais 10 ans. Je suis arrivé dans un monde assez... hostile pour moi, à ma vision, parce que j'étais de couple mixte. Mon père marocain, ma mère française, les Français étant les anciens colonisateurs, donc pas forcément bien vu d'être d'un couple mixte à cette époque-là. On parle des années 70 et donc c'est au lendemain de mai 68 que j'étais trop jeune pour vivre. Et j'arrive donc là. Et la musique, ça a été comme... C'était la soupape, la respiration. C'était des rêves de liberté dans une société où on te fait comprendre, où on t'inflige le fait que la vie, c'est la réussite sous forme d'études, d'ingénieur, de docteur ou d'architecte ou quelque chose du genre. Et ça fait partie de ta contenance sociale aussi. Si tu n'es pas super diplômé, tu n'es rien. Et puis moi, je ne voyais pas ça. Je ne voyais pas ça comme avenir. J'avais trop de folie en moi. Et j'avais besoin de pouvoir m'exprimer de manière... et c'est pour ça que je ne parle pas de chansons, là, je parle de musique. Pour moi, c'est deux choses très, très différentes. Parce que la musique est sans parole. Donc, on peut exprimer beaucoup de choses dans la musique qui ne seront jamais censurées et qui ne seront pas assez claires pour qu'on puisse te faire des reproches et te mettre en prison pour ça. Alors que dans la chanson, au Maroc, dans les années 70, 80... encore aujourd'hui, il y a des choses qu'il vaut mieux éviter de dire, on va dire. Et remarque, ici au Québec, c'est de plus en plus le cas. Hein. On ne peut pas vraiment dire ce qu'on pense réellement parce que sous prétexte de se faire juger, lyncher sur la place publique, sur des Facebook et Instagram, et se faire traiter de ci et de ça par des gens qui vivent largement au-dessus de leurs moyens intellectuels. Malheureusement, il y a des gens qui se croient intelligents et qui sont sûrs d'avoir raison et d'avoir compris ce qui a été dit. La source de tout conflit, c'est l'incompréhension. Donc c'est ça, cette musique, ça a été le fil directeur pour moi, la soupape tout le temps et en tout temps. Et quand je suis arrivé au Québec à l'âge de 18 ans, c'était pour faire de la musique et chanter. Moi, je voulais faire des chansons. J'avais écrit un seul couplet de 4 rimes. Je faisais de la rime. Depuis l'âge de 6 ans, j'ai commencé à faire de la rime. Et j'ai jamais arrêté de faire de la rime. Je m'emmerdais dans mes cours de maths, je faisais des rimes. Dès que je m'embêtais à l'école, ce qui arrivait très très souvent, ça, en fait 8 heures par jour, je m'embêtais à l'école, donc 8 heures par jour, je faisais de la rime. Et puis quand je suis arrivé ici, j'avais l'intention de faire des chansons. Et ça a pris des années pour que je réussisse à faire ma première chanson. J'ai réussi à faire ma première chanson, je pense que j'avais 21 ans. Une chanson que j'assumais, ça s'appelait « Un bar c'est triste, un bar c'est con ». Je me rappelle du titre. Ça devait pas être très bon pour le reste. Et c'est ça, et puis voilà.
Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu envie d'aller travailler, parce que bon, tu as travaillé avec tout un tas d'artistes qu'on connaît très bien, que ce soit Isabelle Boulay, tu as travaillé sur Notre-Dame de Paris, tu as travaillé sur plein de projets qui sont très connus ici au Québec. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir aller au-delà de toi en tant que simple artiste, mais de vouloir aller vers des collaborations, faire du marketing, faire de la promotion? Est-ce qu'à un moment donné, tu as senti cet appel de gérer des dossiers? Est-ce que c'est une succession de contacts? Ou à un moment donné, tu as senti que oui, il y avait Jamil, l'auteur-compositeur, l'interprète, mais il y avait une autre partie que tu avais envie d'investiguer davantage?
En fait, c'est une bad luck. C'est que parmi mes premiers jobs, j'ai travaillé en usine, j'ai essayé de refaire mes équivalents scolaires parce qu'ici, on ne reconnaissait absolument rien de ce que j'avais fait avant. Et puis, j'ai fini par trouver une job assez payante. J'étais représentant de compagnie aérienne, j'étais un des plus jeunes. Et puis, donc, je me promenais à travers les agences de voyage et mon boulot, c'était de vendre le Maroc pour Royal Air Maroc. Et à l'époque, c'était difficile parce que c'est des pays qui font peur, ça, hein, les pays du Maghreb et donc, je faisais ça comme métier. Je m'en sortais quand même assez bien, mais ce n'était pas complet. Et j'avais envie de chanter et j'ai commencé. J'ai quitté Royal Air Maroc pour chanter. Et puis, j'avais un salaire à l'époque de 27 000 $ par année, plus les avantages, qui étaient beaucoup pour un gars de 18-19 ans. Et c'est l'équivalent peut-être de 50 000 de salaire aujourd'hui pour un jeune petit cul de 18-19 ans. C'est pas pire. Et puis, je me suis retrouvé à chanter pour 50 $ par soir quand j'avais de la chance. Et puis, quand j'avais de la chance, je réussissais à chanter une ou deux fois par semaine. C'était assez rough. Et puis, j'ai rencontré ma femme dans un concours de chansons. Et puis, à un moment donné, j'ai eu comme un flash. Le flash, ça a été de dire... les producteurs ne viendront jamais dans les boîtes à chansons nous voir pour trouver, découvrir des talents, ça ne se fait plus. Il faut aller vers eux ou alors il faut se battre à la guerre comme à la guerre, il faut se battre avec leurs armes. Et c'est là que j'ai commencé à penser industrie et penser marketing, mise en marché, enregistrement, etc. Et j'ai dit à ma femme, elle était beaucoup plus commerciale que moi, Catherine Carnas, qui a fait une petite carrière. Et elle a eu quelques succès, quelques top 10. Et je lui ai dit, t'es plus commerciale que moi, donc on va commencer par toi. Et puis quand toi, ce sera installé, c'est la naïveté des jeunes, quand toi, ce sera installé, ben, après ça, on s'occupera de moi. Et j'ai commencé on a commencé à produire un premier 45 tours. Et ça a coûté très cher. Je ne sais pas d'où on a trouvé le fric. On s'est démerdé comme on a pu pour trouver l'argent. Et puis, quand il a été le temps de faire la promotion, on n'avait pas d'argent. Alors, j'ai commencé à décrocher le téléphone et appeler les stations de radio pour faire la promotion de cette chanson-là. Et j'appelais les stations de radio en leur disant « Bonjour, je m'appelle Jamil, j'y connais rien, j'ai un disque, comment on fait pour tourner chez vous ?» Et ce sont les directeurs musicaux à l'époque qui m'ont dit « Comment faire pour faire tourner une chanson chez eux ?» C'est comme ça que j'ai appris. Très rapidement, le mot s'est passé et il y a pas mal de jeunes qui commençaient à venir me voir pour faire du tracking radio, ce qu'on appelle le tracking radio, du pistage en français, pistage radio. Donc, ça veut dire appeler les stations de radio et convaincre les directeurs musicaux. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. C'est beaucoup moins comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, on pouvait de tête à tête, homme à homme, téléphone à téléphone, convaincre un directeur musical d'écouter une chanson et de la faire jouer. Et je faisais donc toutes les semaines, en une seule journée, je faisais 45 appels à 45 directeurs musicaux qui contrôlaient 120 programmations à travers la province. C'était le palmarès s'était monté comme ça. Et puis, j'ai eu du succès avec, dès le premier titre, on a fait un top 10. Les gens sont venus me voir de plus en plus. 18 mois plus tard, ça a été très très vite, ça a été une traînée de poudre. 18 mois plus tard, j'étais l'agent de promotion numéro 1 et j'avais en moyenne 14 titres par semaine au top 50. Et là, bon, le premier succès qui m'a vraiment fait connaître, c'était avec les Gypsy Kings, c'était Bamboléo. On faisait tourner une chanson en espagnol à la radio, alors qu'à la radio québécoise, il n'y avait que du français ou de l'anglais. Il n'y avait aucune langue étrangère. Ça avait fait des scandales parce que la chanson Bamboléo s'était retrouvée dans le palmarès francophone. Pour toutes sortes de circonstances qui seraient trop longues à expliquer. Et de fil en aiguille, j'ai pris des risques sur toutes sortes d'artistes. Et donc, je travaillais des trucs très, très commerciaux, genre Julie Mas, qui est plus connue aujourd'hui par bien des générations, mais qui était plus aimée que Céline Dion. Les sondages le montraient. Elle était beaucoup plus aimée que Céline Dion au Québec. Et puis, je faisais du Richard Desjardins de l'autre côté, qui, lui, contrairement à... à Julie Masse, au lieu d'appeler pour demander de faire tourner la chanson, je disais aux directeurs musicaux, je ne veux pas que vous fassiez tourner telle chanson, parce qu'ils faisaient tourner des chansons humoristiques et c'était une mauvaise image à donner à Richard Desjardins que de le faire connaître comme un chanteur humoristique. Là. C'était pas du tout un plume. Là. Quand il faisait le bongo, c'était drôle. Mais le show de Desjardins, qui était la force de Desjardins, c'était son spectacle. Il ne fallait pas porter ombrage à ce show-là et se retrouver à avoir un public qui était un public de soldats Louis, Jean Durhomme, des femmes de la bière, dont de Dieu, dans un show de Richard Desjardins. Ça aurait massacré le spectacle. Ça aurait plutôt affecté la carrière de Richard. Donc c'est ça, c'est vraiment des concours de circonstances. J'ai jamais fait exprès de vouloir faire ce métier-là. Il se trouve que j'étais là au bon moment, avec la bonne attitude. Au lieu d'avoir des agences de voyage où je devais vendre du voyage du Maroc, ben j'avais un territoire avec des stations de radio au lieu d'être des agences de voyage. Et puis au lieu de vendre un produit abstrait, qui est une photo, parce que quand tu vends une photo, quand tu vends un voyage, hein, c'est une photo, que tu vends pour 1 000, 1 500 piastres. À l'époque, c'était cher. C'était 1 099 pour un 5 étoiles de semaine, ce qui n'est pas cher dans le fond, mais bon, à l'époque, on remonte il y a 30 ans, c'était quand même 1 000 piastres, c'était beaucoup. Et j'arrivais à vendre des forfaits à 1 000 piastres sur une photo. Et là, j'arrivais avec un produit semi-concret, semi-abstrait, c'est-à-dire que c'est une chanson, tu ne sais pas ce qu'elle vaut vraiment, mais au fur et à mesure que tu la pratiques, et tu la fais jouer, elle prend de la valeur. Et l'artiste prend de la valeur aussi. Donc ça, j'ai su faire et j'ai eu de la chance de suivre mon instinct. J'ai eu la chance de réussir à sentir ce que les gens allaient aimer. Surtout ça, d'écouter une chanson et de dire ça, ça va plaire. Ou de dire, ça existe aussi, ça va jouer à la radio, ça va faire un numéro un, mais on ne vendra pas une seule copie parce que ça ne touchera pas assez le monde. Mais c'est parfait pour jouer à la radio, pour ne pas déranger, puis c'est dans le beat, c'est bon, c'est du jambon. Là, tu peux en manger matin, midi et soir. Et puis, il y avait d'autres chansons, beaucoup plus difficiles, où je me disais, ça, là, on va beaucoup moins tourner, mais à chaque fois qu'on va tourner, on va vendre beaucoup de disques. Et donc, on devenait très fort dans le palmarès des ventes, ce qui nous aidait à monter dans le palmarès radio, à la diffusion. Voilà, c'est à peu près ça.
Tu parles beaucoup de... Entre autres, tu parles beaucoup, mais je veux dire, tu parles beaucoup d'instinct, de confiance. Tu es arrivée ici, tu étais très jeune. Tu le disais en début d'entrevue aussi, tu as été déracinée d'un bord, de l'autre. Tu t'es lancée dans le vide à plusieurs reprises. Est-ce qu'il y a un élément qui fait que tu y croyais toujours, ou si aujourd'hui, plusieurs années plus tard, tu te dis, j'ai juste vraiment go with the flow, suivi ce que j'avais à faire, ou est-ce que tu avais, peut-être je peux poser ma question différemment, est-ce qu'il y avait un but au bout, quelque chose que tu voulais absolument atteindre, que tu te disais, OK, je vais visualiser ça, puis je vais faire tout ce qu'il faut pour essayer de me rendre plus loin. Est-ce que, tu sais, tu comprends-tu un peu ce que je veux dire?
En fait, il y a plusieurs questions dans ta question, ou plusieurs façons de répondre, mais effectivement, il y a une question de... Il y a toutes sortes de mots à mettre là-dessus. La foi, croire en quelque chose sans que ce soit... La foi, c'est croire en quelque chose sans que ce soit palpable, sans qu'il y ait de preuves. Tu te dis juste... C'est pour ça que je disais, je suis arrivé au Québec, je voulais chanter, mais j'avais écrit qu'un seul couplet. Mais je savais fondamentalement que je voulais chanter. J'ai quitté Royal Air Maroc où j'avais un avenir tracé. J'avais du pushing all the way long dans la compagnie. Et j'aurais pu devenir très rapidement un directeur. Et à l'âge de 30 ans, j'aurais gagné 150 000, 200 000 par année. Avec la Mercedes, avec la maison payée, etc. etc. J'ai pas suivi ça. J'ai eu plusieurs chemins croisés et j'ai toujours pris les directions les plus dures, pas parce qu'elles étaient plus dures, mais parce qu'elles me correspondaient plus au niveau du cœur. C'est ce que je préférais faire. Et je vais t'avouer que plus l'âge avance, plus c'est difficile à faire comme choix. On dirait que l'innocence de notre jeunesse nous fait faire des moves extraordinaires qui déclenchent... je sais pas comment on peut appeler ça. Ça déclenche de la chance. La chance, c'est peut-être se mettre en position d'ouverture et de saisir des opportunités, avoir l'audace de saisir des opportunités sans peut-être réfléchir. J'ai fermé les promotions Jamil, ma boîte, je l'ai fermée au sommet du succès. Là, j'avais Notre-Dame de Paris, j'avais Cabrel, j'avais Desjardins, j'avais plein d'artistes dont je m'occupais. Pour partir une entreprise complètement folle, c'est une salle de spectacle avec un bar. Et puis tout le monde me disait, même mon avocat qui me suivait, qui est un ami de longue date, qui me suivait, me disait, Jamil, je t'ai toujours suivi, mais là, vraiment, tu fais une gaffe. Et c'était le petit Medley qui a été extraordinaire. Ça a été un endroit mythique de Montréal. Je dis, ça a été, parce que malheureusement, ça a changé beaucoup de mains. Et puis avec la Covid, il n'y avait plus rien qui survit. Mais ça a été un lieu extraordinaire où beaucoup d'artistes ont commencé. Il y a eu des soirées mémorables. J'ai commencé à chanter là avec mes employés. C'était une entreprise extraordinaire. Mais je l'ai parti avec 9 000 $. J'ai jamais eu l'argent qu'il fallait pour partir mes entreprises. C'est jamais. J'ai toujours parti avec rien et je sais jamais comment j'ai fait pour trouver le fric avec le recul. Comment j'ai fait pour trouver l'argent pour faire les promotions Jamil, je sais pas. Comment j'ai fait pour trouver l'argent pour faire les disques que j'ai fait, je sais pas. J'ai commencé les choses et puis les choses se sont mises en place. Et comment ça se fait? La foi, l'assurance. Est-ce que, comme certains le disent, tu envoies ta commande et puis à un moment donné, quand ils ont le temps, ils livrent. J'ai aucune idée, mais bref, il faut avoir des couilles. Je pense que c'est ça, là. Faut plonger.
Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est absolument incroyable où une passion, très simple, comme tu disais, moi je voulais chanter, je suis arrivée avec un couplet, où tout ça peut te mener quand tu as justement la foi. Puis je parle beaucoup de foi dans ce podcast, puis c'est beau de voir à quel point ça peut prendre des directions qui sont totalement opposées, totalement différentes. Puis justement, tu me disais, bon, il y a des chemins à un moment donné qui arrivent, il y a des choses qui t'arrivent, qui t'amènent à d'autres endroits. Je veux qu'on ait, dans un moment de ta vie qui a été, lui, beaucoup plus difficile, au moment où tu as fait un AVC. Donc, vraiment, là, ça allait super bien pour toi. Tu avais plein de belles opportunités. Puis là, c'est comme la vie qui te dit, malgré toute la foi, malgré tout ce que tu as visualisé, malgré tout ce qui t'arrive, qui te dit, OK, Jamil, tiens, il te manquait de petits défis. Tu sais, malgré le fait que tu te sois réinventé, comme on nous le demande, que tu te sois réinventé 100 fois, à un moment donné, tu as eu ça qui t'est arrivé, qui a complètement bouleverser tout ce qui se passait, parce que forcément, n'importe qui connaît ou a vécu ce genre d'épreuve, tu n'as pas le choix. Tu ne te dis pas, oh, c'est correct, on va continuer. Et tu te dis, non, je vais prendre un temps d'arrêt et je vais re-questionner tout ce que je fais. On en a parlé quelques fois ensemble. Aujourd'hui, moi, je trouve que tu es un homme tellement inspirant. Qu'est-ce qui a forgé le nouveau Jamil? Parce que quand on vit une expérience comme ça, j'ai l'impression, puis corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un avant, un après. On a abordé ensemble, dans ce début d'émission, le avant. Donc vraiment, je dirais le gros Jamil qui roule et puis qui enchaîne un projet après l'autre. Qu'est-ce qui a formé le Jamil qu'on connaît aujourd'hui, celui qui écrit pour d'autres, celui qui a un gigantesque jardin de permaculture, qui est bien de son temps, qui cuisine bien, qui mange bio, mais qui toujours et encore fait de la musique, collabore avec plein d'artistes. Il y a plein de beaux projets qui s'en viennent pour toi. Qu'est-ce qui a forgé, disons, la deuxième partie de ta vie? Puis encore là, je sais que je te laisse de la place, mais c'est parce que je sais que tu vas tout reprendre mes propos puis que tu vas bien arranger ça.
Ben, l'AVC, ça m'a pris des années à le dire, mais je pense que je suis content de l'avoir vécu. Je n'ai pas vécu un petit AVC, ça a été une double hémorragie cérébrale. Je me suis retrouvé en chaise roulante, il a fallu tout réapprendre à parler, à marcher, à tout réapprendre. Et j'ai perdu 35 années de guitare. Le message que j'ai reçu là-dedans, c'est... avec le temps, ça s'est arrivé il y a 11 ans, hein, donc j'ai largement eu le temps d'y penser. Puis j'ai rencontré régulièrement pendant 7-8 ans des victimes d'AVC à qui j'allais remonter le moral, à Villa Medica, qui est le centre de réadaptation à Montréal, où j'ai été accueilli pendant 2-3 mois. Et ça m'a permis de rester en contact avec cette réalité. Et donc je peux dire aujourd'hui que j'oserais dire, il n'y a rien qui arrive pour rien. Je pourrais peut-être confirmer quand je serai mort si j'ai la chance de revenir vous voir, mais ça m'a obligé à changer ma vision de la vie. Je me suis retrouvé comme un claustrophobe qu'on mettait dans un placard. Et là, tu as deux choix, tu crèves ou bien tu t'adaptes. Et moi qui étais workaholic, hyperactif, je me suis retrouvé du jour au lendemain ralenti. Pour que les gens aient vraiment l'idée, une chaîne de trottoir, c'était un obstacle qui me prenait à peu près 10 secondes à surmonter. J'avais des vertiges en permanence, donc le fait de baisser les yeux et relever les yeux, ça me prenait 3 secondes de retrouver mon équilibre, même assis. Donc, c'est extrêmement exigeant et ça t'en ramène au présent. Parce que je n'ai pas vécu au présent avant les AVC, dans ma vie d'avant. J'ai vécu beaucoup quand j'étais jeune, jusqu'à l'âge de 19-20 ans. J'ai vécu dans le passé. Et c'est une blonde qui m'a fait la remarque, une femme qui était beaucoup plus âgée que moi. C'était le premier amour de ma vie. Elle avait 13 ans de plus que moi. Et elle m'a dit, Jamil, il faut que tu arrêtes de rêver parce que ça te rend triste. Et puis, je suis resté avec ça. Et puis, je réfléchissais. Je disais, mais moi, je ne peux pas arrêter de rêver. J'ai besoin de m'envoler. J'ai besoin de partir. Je suis l'élève au fond de la classe qui regarde dehors les oiseaux. J'ai besoin de ça. J'écris des rimes. Le prof de maths me fait chier. Je pense à autre chose. Dis-moi que ces chiffres qu'on additionne vont me faire construire un pont. Ça va être un... OK. Là, et pourquoi construire un pont? Donne-moi, give me a purpose. Donne-moi un objectif, une raison. Mais m'apprends pas des trucs pour m'apprendre des trucs comme c'est gavé c'est du gavage. Et donc là je me suis dit OK, si je peux pas rêver, si effectivement ça me rend triste, donc c'est parce que je suis tout le temps au passé. Le passé est toujours meilleur, hein. Le passé, il y a un genre de screening qui fait que quand tu te rappelles du passé, c'est toujours les beaux moments et rarement les mauvais. En général, c'est toujours beaucoup beaucoup plus beau que ça a réellement été. Et je me suis dit, bon, ben là, tout ce que je vais rêver, je vais essayer de le rêver réaliste, que ça puisse se passer. Donc, si je m'imagine aller voir quelqu'un et lui demander de faire de moi, je ne sais pas, de m'accorder des faveurs ou ceci ou cela, ou de me prendre comme artiste ou whatever, là, tu as un rêve à réaliser et puis tu t'imagines réaliser ce rêve. Il faut que ce que j'imagine soit vraiment réaliste, soit faisable et réalisable. Et puis à partir de là, tout a commencé à se mettre en place et j'ai commencé aujourd'hui, on donne des ateliers là-dessus, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on donne des ateliers sur le fait de rêver réaliste. C'est une forme de création, c'est la création, rêver réaliste. Et toutes mes salles de spectacle, je les ai rêvées, les albums, je les ai rêvées, j'ai même rêvé des chansons. Et ça m'a permis de structurer ma pensée pour pouvoir arriver à finaliser des objectifs. Là, je suis en train de me perdre, je ne sais plus où j'étais au juste quand je disais tout ça. Le rêve, oui, on parlait de vivre au moment présent. Sauf que avec les promotions Jamil, j'ai commencé à vivre dans le futur. Et je défendais des chansons, j'appelais les directeurs musicaux et j'attendais le résultat du palmarès deux jours après, dans l'espoir qu'il soit bon pour telle ou telle chanson. Et donc, j'étais tout le temps en train d'attendre le palmarès de la semaine suivante pour donner des résultats plus forts, meilleurs, plus grands. Et donc, je me suis mis à vivre vraiment dans le futur, tout le temps. Et l'AVC, ça m'a complètement ramené au présent. Ça m'a obligé à confronter le présent, puisqu'à chaque geste que je faisais, j'étais obligé de revenir dans une réalité. Ça a été... j'ai découvert, moi, beaucoup, on en a parlé un peu, de Christophe André, la pleine conscience. Alors, je suis du genre à ne pas aimer les dogmes, je suis du genre à ne pas aimer... j'ai du mal avec les religions. Et ce que j'aime de Christophe André, qui est un philosophe, médecin, sophrologue, c'est qu'au début, j'ai trouvé des choses complètement stupides dans ce qu'il disait, mais en pratiquant un petit peu et à force d'y réfléchir, j'ai fini par trouver le gros bon sens de ce qui est enseigné là. C'est de vraiment réussir à retravailler l'appréciation de chaque chose, le moindre objet, le moindre stylo que tu tiens dans tes mains, tes chaussettes, n'importe quel vêtement, n'importe une cuillère, qui y a pensé, comment ça a été fait, où ça a été fabriqué, qui l'a fondu, a fait fondre le métal pour cette cuillère-là, qui a fait le moule, qui l'a vendu, qui l'a transporté. Et là, tu te rends compte qu'on a un univers extrêmement riche et complexe autour de nous. Dans cette maison où tu es là présentement, il y a des objets qui viennent du monde entier. Ça vient d'aussi loin que la Chine. Hein, ça, je pense que tout le monde, on a un objet chinois qui a transité en Chine, qui a été touché par une des milliardièmes personnes qui vivent de l'autre côté de la planète. Et puis il y a de l'Espagne, et puis il y a du Maroc, puis il y a de la France, puis il y a de tout. Il y a du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a de la Gaspésie. Donc, je pense qu'on est blasé, on est noyé dans l'information, on est des enfants gâtés. On se rend plus compte. C'est un peu comme une odeur. Tu sais, une odeur, au bout de 10 minutes, tu la sens plus, l'odeur. Hein. Ton cerveau sélectionne pour que tu puisses définir d'autres odeurs qui pourraient peut-être être dans le... Non, c'est une question de danger, ça, mais ça, c'est un autre débat. Mais on s'habitue donc à avoir toute cette richesse autour de nous et on finit par ne plus être conscient de la chance qu'on a, tout simplement, qu'il fasse beau. Et puis quand j'ai marché Compostelle, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire. Il peut pleuvoir, il peut venter, ça peut être l'orage, tu peux être mouillé jusqu'aux os, il peut faire froid, il fait toujours beau. C'est toujours magnifique. Et c'est en ne me cachant pas sous un toit, en étant avec mon sac à dos, en train de marcher pendant plus de 900 km, 25 km par jour, tu marches dans toutes les conditions, il fait extrêmement chaud, j'ai eu les éclairs qui tombaient à 20-30 pieds de moi dans les Pyrénées. Tu peux te sentir mal, tu peux te sentir en danger, mais c'est beau, c'est magnifique. Et là, tu finis par te dire, mais attends, il y a quelque chose, j'ai raté quelque part. Je me lève le matin et puis à la radio, ça dit, oh, il fera pas beau aujourd'hui. De quoi tu parles? Il fait toujours beau. Il va faire mouillé, il va faire plus gris, mais il fait toujours beau. Oh, on va avoir une sale température. De quoi tu parles, une sale température? Alors, on se laisse infliger des choses comme ça et on finit par y croire. Et ça, c'est catastrophique. On croit, alors qu'il y a tellement de belles choses autour de nous, la pleine conscience, le vivre au moment présent, c'est ce qui nous permet... Moi, tous les matins, je me réveille, c'est ma blonde, ma dernière blonde qui m'a donné cette routine-là. Je prends un café puis je regarde par la fenêtre pendant au moins 15-20 minutes. Puis je fais juste apprécier la chance que j'ai d'abord d'être en vie, la chance que j'ai de voir un ciel qui soit gris, qui soit lourd, qui soit ci, qui soit ça, quel qu'il soit, parce qu'il fait toujours beau. Et puis tranquillement de pouvoir planifier ma journée et savoir ce que je vais en faire. Et puis tout en sachant que ça a un prix, tout ça. C'est que tout ce temps que je prends pour faire que j'apprécie la vie, que j'apprécie la moindre chose, ben, c'est du temps que je ne donnerai pas à être productif pour pouvoir faire de l'argent.
Ouais, c'est tellement intéressant, c'est tellement pertinent. Puis je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui vont faire des liens. Puis surtout au Québec, on est toujours en train de parler de météo. on devient endoctriné, tu sais, par tout un tas de propos. Puis je suis certaine que je suis pas la seule à me demander, OK, attends une minute. Le gars vient de faire un ACV, une chaîne de trottoir est un obstacle monumental, mais il décide de faire Compostelle. Dit comme ça, dans tout ton récit, on peut comprendre que, bon, ça te fait apprécier plein de choses, mais qu'est-ce qui t'a décidé? Ça a été quoi? Bon, depuis le début, on le dit, Jamil se lance dans le vide, Jamil croit à tout un tas de choses, mais qu'est-ce qui a fait que tu sentais cet appel-là? Pourquoi avoir décidé de faire Compostelle à ce moment précis?
Alors, je vais te donner une phrase cliché, mais qui m'aide beaucoup. La guérison passe par l'action. S'il y a quelque chose qui ne va pas et que tu restes assis sur ton cul sans rien faire, ça n'ira pas mieux. Il faut que tu agisses, mentalement ou physiquement. Moi, j'ai, parmi mes défauts, ma mère m'a inculqué un complexe, celui d'être trop gros. Même quand je pesais 160 livres, pour un gars de ma taille, 5 pieds 10, c'est pas beaucoup, hein. Je me trouvais gros, je me suis toujours trouvé gros. Et puis avec l'AVC, le manque d'activité physique, etc., je me suis mis à grossir et je me regardais dans le miroir, je me disais, ça n'a pas de sens. Et je ne me supportais plus. Alors je vais agir, mais quoi faire, tu sais, j'avais ma canne, j'allais nourrir mes poules. Je m'étais pris des poules en campagne pour m'obliger à aller tous les jours, matin et soir, marcher jusqu'à la grange. C'était, quand je revenais, je dormais 3 heures. Hein. tellement j'étais épuisé. Et là, je me suis mis à marcher. Je me suis mis à marcher de mon entrée jusqu'au stop qui est au coin de la rue, qui fait à peu près 500 mètres. Donc, j'ai marché de là, aller-retour, ça faisait 1 kilomètre dans le fond, 1 kilomètre de marche. Et puis après ça, j'en ai fait 1,5, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis au bout de 6. Et j'avais la jambe gauche qui avait du mal à fonctionner, quoi. C'était pas fluide. Et après ça, j'ai commencé à prendre une guitare en bandoulière parce que j'avais perdu la dextérité fine de ma main gauche, qui est la main du clavier. On m'avait dit qu'il y avait rien à faire. À cette époque-là, il n'y avait rien à faire. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des choses à faire, mais à cette époque-là, on m'a dit qu'il n'y avait rien à faire. Et je n'ai pas réussi à me résoudre à ça. Et j'ai commencé à essayer de plaquer des accords et à faire du note à note sur le en marchant parce que je m'ennuyais. Je suis workaholic, donc je marchais. Puis je marchais, mais je disais, mais c'est pas suffisant. Je m'emmerde en marchant. C'est bien beau réfléchir, penser, mais à un moment donné, je m'emmerde. Il faut que je fasse quelque chose. Je peux faire des Scooby-Doo, je peux faire du tricot. Ben, je vais faire de la guitare. Et je me suis mis à marcher. Et après ça, on m'avait parlé de Compostelle il y a déjà 20-30 ans avant. Et ça m'avait marqué. Et puis, je me suis, sans vouloir y croire vraiment, là, je me suis mis un sac à dos. Et j'ai mis des cannes de tomates dans le sac à dos, des grosses cannes de tomates, pour faire du poids. Et j'ai commencé à marcher des 5, 10, 15, 20, 25 kilomètres. Quand je me suis rendu à 25 kilomètres avec une charge, entre-temps, j'ai remplacé les cannes de tomates par un équipement réel de Compostelle. Donc, toute la trousse. Et puis, c'est la brosse à cheveux, pas de manche. C'est la brosse à dents pliable. C'est le mini-tube de dentifrice. C'est tout ce qu'il faut d'ultra-léger pour pouvoir voyager le plus léger possible. Et entraîner, user ton stock, casser tes chaussures, faire les ampoules qu'elles soient faites, là, que tu les fasses pas. Et j'ai commencé à rêver de faire Compostelle. Je l'ai rêvé et j'ai fait semblant de faire Compostelle à tous les jours jusqu'à ce que j'aille finalement faire mon premier Compostelle. J'en ai fait 3 en bout de ligne, hein. Mais le premier était le plus important. Et j'ai fait 917 km. Les autres, il y en a un, je me suis blessé. Puis le troisième, j'avais que 15 jours. Donc, je n'ai fait qu'environ 300 km en essayant de retrouver l'esprit du tout premier Compostelle, ce que je n'ai pas trouvé, et je vais y retourner, sauf qu'avec la COVID, l'Espagne, c'est pas recommandé pour l'instant, on va se donner une chance. Donc je vais attendre un petit peu. Donc c'est ça, cette pulsion, je ne sais pas, j'essaie de répondre, mais cette pulsion, d'où elle peut venir, c'est un optimisme qui est là, qui est en fait, tu n'as pas le choix que d'être optimiste, parce que sinon c'est destructeur. Et je pense que n'importe quelle plante, n'importe quel arbre, n'importe quel petit pois que tu sèmes, il veut pousser, il veut survivre, quelles que soient les conditions dans lesquelles il vit. S'il y a une sécheresse, il va quand même essayer de survivre à travers cette chose. Et c'est la même chose. Je pense que c'est une flamme qui est à l'intérieur de nous. Et puis, on fait tout pour continuer, pour survivre, pour progresser, pour évoluer. Pourquoi ? D'où ça vient ? J'ai aucune idée.
C'est parfait comme résumé. Puis, on pourrait parler, continuer de parler de ce qui te fait cheminer, puis tout ça, mais je veux qu'on en arrive au moment où ensuite tu as décidé que tu refaisais des albums, que tu recommençais à mettre le tout. Tu es un peu sur le projet en ce moment. Maintenant, je pense que toute l'industrie prend un peu plus son temps qu'à une certaine époque. Si on arrive dans le moment présent, maintenant, est-ce que t'es... J'ai de la misère à tourner ma question. Est-ce que tu ressens la fierté d'avoir fait tout ce chemin? Tu dis que, bon, l'AVC finalement a fait beaucoup de bien. Ça a été nécessaire. Comment conçois-tu ta vie à la campagne avec les poules, les projets que tu fais? C'est quoi tes aspirations maintenant pour le futur? Est-ce que tu y penses encore ou tu es vraiment revenu dans une essentielle? Puis j'essaie juste de boucler un peu notre entretien, tu sais, avec un lien avec ce que tu fais maintenant. Comment perçois-tu la vie que tu as présentement?
Super compliqué de répondre à ça. C'est... À quelque part, on a tous, et moi j'étais le premier, et puis je le suis encore, un méchant problème d'ego. On a une tendance à tout ramener à nous-mêmes et à se sentir beaucoup plus important qu'on est. Et ça a l'air complètement con, mais moi, je plante des radis et des carottes là depuis 3 mois. Je fais de la permaculture, je me renseigne, je bouffe de l'information en permaculture. Je me rends compte que notre système n'a aucun bon sens et on devrait tous être responsables de faire pousser en partie ce qu'on consomme. Ce serait beaucoup plus sain pour notre corps. J'ai rêvé et je suis en train de le réaliser d'avoir un mode de vie dans lequel je suis physique le matin, je suis alimentaire l'après-midi et je suis spirituel le soir. Et je commence à le faire en dépluguant des réseaux sociaux, en dépluguant Netflix. Le cinéma qu'on nous inflige, qu'il soit même de répertoire, c'est à prendre à goutte d'eau parce que c'est du rêve condensé en 1h30. C'est nocif. Il faut prendre le temps de digérer et puis de regarder ce qu'on regarde. On regarde souvent du film à l'américaine pour se changer les idées et au lieu de se changer les idées, bien, finalement, on s'inflige des programmations, on veut pas, qui sont pas saines du tout. Et on s'en rend compte quand on décroche, mais quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Et puis je reproche à personne de regarder Netflix ni quoi que ce soit, je suis pas du tout là-dedans. Mais disons que moi, j'ai commencé à tirer la plug sur tout ce qui est superflu dans nos relations, dans le fond. Et puis ça m'amène beaucoup de temps. Parce que mine de rien, le soir, au lieu de regarder un ou deux films ou une série, etc., ben je lis sur la permaculture, je lis peu. En fait, je regarde surtout des reportages, j'apprends beaucoup sur la permaculture ou sur des X sujets qui m'intéressent. Et ça m'enrichit 100 fois plus et je me réveille plus intelligent le lendemain matin et avec des projets de réaliser ceci ou cela. C'était quoi la question déjà?
En fait, ma question était assez floue, donc c'est parfait, tu y réponds bien. C'était plutôt par rapport à ton quotidien maintenant, comment tu te sens par rapport à tout ça, après tout ce cheminement, tu revues le micro. Hein?
Ouais, je me sens petit et je ne suis pas déçu de l'être. Je parlais d'ego, c'est ça, je suis parti sur l'ego. Et je me sens petit et puis c'est peut-être ma place. Et quand tu parles de fierté, je n'ai pas de fierté. Je n'ai pas de fierté particulière, sinon que je sais ce que j'ai fait. J'ai constaté que les gens qui m'entourent, le seul endroit où j'ai le goût de dire ce que j'ai fait, c'est quand ça peut aider quelqu'un à savoir que c'est faisable. C'est quelqu'un qui est là, ouais, moi je ne peux pas parce que regarde, je suis ici, regarde, je l'ai fait, tu peux le faire. C'est là où je pense que ça vaut la peine que je dise ce que j'ai fait. Là, j'ai eu dernièrement une entrevue pour une job et j'ai jamais dit ce que j'ai réalisé dans ma vie, jamais. Et de toutes les façons, si j'avais dit ça, ils m'auraient dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire pour ça? C'est une job de direction des loisirs dans une résidence pour personnes âgées, 400 appartements. Mais pour moi, c'est magnifique, c'est un monde. Il va y avoir 600 personnes à peu près. C'est un village que tu dois animer, tu dois faire en sorte qu'il y ait 600 âmes qui se lèvent le matin avec le goût de faire quelque chose, et puis de bouger, et puis de réaliser des choses, puis qui aient hâte de les faire. C'est ça ta job, hein, directeur des loisirs. Je cherchais des directions de loisirs de ville, et puis je suis tombé là-dessus. Je ne sais pas si je vais l'avoir, mais j'espère l'avoir, parce qu'ils ne savent pas à quel point je vais être bon là-dedans. Je sens que je l'ai, ça. Tu sais, il y a un petit quelque chose qui vibre à l'intérieur. Tu parles de la foi, là, ou quelque chose, je ne sais pas, qui sait que c'est juste, qui sait que c'est ça, je vais être bon là-dedans, puis je vais avoir du plaisir à le faire, et oui, j'aimerais faire ça. Mais bon, et puis à côté de ça, je vois des jobs que je pourrais faire, il y a une direction de festival ou de trucs à Laval. Je sais que je peux être très bon là-dedans, mais ça, sans intérêt, le salaire est bon, tout est bon, mais je vais me faire chier, parce que je vais mourir à petit feu dans des jobs comme ça qui sont beaucoup trop prenantes. Je veux avoir du temps. Ouais, c'est ça, je veux avoir du temps. Je pense que, et puis pour revenir à ta question, je pense que l'infiniment petit, on commence à aller là-dedans, hein, vers ça. L'infiniment petit est extraordinaire. La permaculture, c'est un respect de ce qui se passe en dessous du sol qu'on ne voit pas. Il y a des milliers, des centaines de milliers d'organismes qui vivent là. Et au lieu de les agresser pour faire pousser notre nourriture, eh ben, on conjugue avec eux. Et puis on se retrouve avec des nutriments 35 fois plus nutritifs que ce qu'on achète au IGA.
Finirai cet entretien avec une question que je pose à plusieurs invités. Tu parles de ce qui est enfoui dans le sol, tu parles du tout petit, de porter une importance particulière à absolument tout ce qui nous entoure. Je pense que dans ta spiritualité, il y a beaucoup de laisser de la place au vide, laisser la place au temps, prendre le temps. On l'a beaucoup vu d'ailleurs avec la COVID, hein, ce désir de prendre le temps, de combien de personnes se sont rendues compte que, oh my God, j'ai peut-être pas besoin de faire 10 voyages dans mon année pour être heureux, tu sais. Je pense qu'il y a un questionnement majeur là-dessus, puis je sais qu'on pourrait encore discuter de mille et un sujets, mais vous écouterez nos tunes, hein, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire pour en connaître plus sur Jamil, sur son histoire. Écoutez ses albums qui sont disponibles sur toutes les plateformes, je pense, à peu près, pas mal, hein. C'est assez simple à trouver partout. Sinon, site internet, c'est jamilofficiel.net. Donc, jamilofficiel.net pour trouver tout ce qu'il fait. Je vais la poser, cette dernière question, en lien un peu avec tout ça. Si je revenais à la base, à la voix, à la vibration, parce qu'il y en a beaucoup question dans le podcast, je veux juste qu'en quelques lignes, tu répondes sur c'est quoi la voix pour toi? Donc, je sais que tu l'as utilisé pour chanter, tu l'as utilisé pour plein de choses, mais on peut l'utiliser en méditation. Le simple fait de pratiquer notre respiration nous énergise, fait en sorte qu'on a une routine vocale. C'est quoi la voix pour toi?
C'est énorme comme question. Je ne sais pas ce que c'est que la voix, mais je sais ce que c'est. Bah non, je ne sais pas non plus ce que c'est que la vibration, mais je soupçonne, et on le voit de plus en plus, et on le comprend de plus en plus. La vibration, c'est vraiment. Non, je ne peux pas dire c'est vraiment, je ne le sais pas. Mais il me semble, on le voit sur ceux qui font, comment on appelle ça? Ils font vibrer une plaque de métal avec du sable et avec un archet. Et puis cette vibration-là crée des formes dans le sable qui sont géométriques, qui sont parfaites. Et qui, dépendamment de la vibration, vont changer de forme. Et on estime et on pense que c'est probablement comme ça qu'à partir d'une graine, quand elle pousse, elle sait quelle forme elle doit prendre par rapport aux vibrations qui sont déclenchées probablement génétiquement, je ne sais pas, quelque chose du genre. Donc le pouvoir de. On entend, je pense, dans les champs, c'est les tracteurs qui passent, on est en campagne. Hein, ouais, c'est l'heure du trafic, là. Ah oui, il est 5h moins 10, il rentre à la maison, c'est l'heure du trafic. Mais il y en a qu'un qui passe, après ça, on va être tranquille. Mais pour revenir à la vibration, il y a un phénomène là-dedans qui est extraordinaire. Et puis, quand je veux passer une intention au niveau de la chanson, je pense beaucoup à poser ma voix de manière à ce qu'elle vibre pour que ça transpire, pour que cette émotion-là transpire. Je sais pas si j'y arrive. Je pense que j'y arrive de temps en temps. Y a des gens, tu remarqueras ça, tu as sûrement vécu ça. Tu arrives en salle et puis il y a une personne que tu connais pas qui se met à parler au micro et puis d'un coup tu figes parce que cette voix, cette vibration qui est portée, et même si la personne c'est un connard, hein, ça n'a aucun rapport, cette vibration qui est portée et elle t'envoie un message, tu reçois un message, je ne sais pas quel est le message, mais il peut être rassurant et apaisant, il peut être énervant aussi, remarque. Mais moi, c'est ce que j'ai reçu souvent et ce que j'essaye de transmettre par cette vibration-là. S'il y a un code qui peut passer, c'est l'ouverture, c'est la gentillesse, c'est la. Comment on parle de. Les bonnes intentions, prendre soin. Voyons. Comment on dit? La bienveillance, voilà. Moi, c'est la bienveillance que j'essaie de passer. Puis je suis à la recherche d'une attitude en tout temps gentille de ma part. Je suis méditerranéen, je peux être colérique, je peux casser des verres. Bon, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais je peux tu sais, j'ai du tempérament, je ne sais pas. Je suis vraiment pas momoun quand je suis en colère. Tu sais. Et par contre, je suis toujours gentil. Je sais que ça part toujours d'un fond gentil. Je peux être blessé, mais je demeure gentil. Des fois, je peux piquer des colères où tout le monde rit. Parce qu'il voit bien que je suis inoffensif. Alors voilà, la voix, c'est... La voix, c'est la vie. C'est primordial. La vie, c'est une vibration. Sans vibration. Et la voix, c'est l'expression de cette vibration-là. Et c'est ce qui fait que tu peux chanter le bottin des fois et quelqu'un te chante le bottin, mais sur une vibration tellement extraordinaire que tu es là, tu restes, bouche bée, et puis t'écoutes.
Tu vois, c'est pour ça que je t'ai invitée. J'avais besoin d'une si belle définition de la voix. Mais merci beaucoup, Jamil. Pour tous ceux qui nous écoutent, je vais vous remettre les liens sous la description du podcast pour pouvoir découvrir tout ce que Jamil fait. On va se quitter sur une de ses chansons, pourquoi pas. Là, il me regarde avec des gros yeux, mais je fais un petit peu de montage quand même. Là, tu pourras me dire laquelle tu veux que je mette à la suite, parce que je trouverais ça super intéressant tout de même que les gens, suite à ça, écoutent une chanson de ton choix, n'importe laquelle, mais tant que c'est toi qui chante. Mais vraiment, merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous tous qui nous écoutez. Je ne sais pas où, mais j'espère encore une fois que ce podcast vous aura inspiré, qu'il vous aura fait du bien. Et puis, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un tout autre épisode avec une autre invitée que j'adore, Audrey-Anne Trudel. À bientôt!
Je t'offre combien de roses pour te dire combien de choses que mon cœur n'ose pas. Je te les aurais dites en prose, mais la musique s'impose, sinon il n'y en aurait pas. Et c'est donc cette chanson qui portera en mon nom tout l'amour que j'ai pour toi. Suffira-t-il de cette missive, cette déclaration hâtive que tu te donnes à moi? L'amour a-t-il besoin de tant de préambules que se fanent les feux? Mes baisers comme des bulles effleurent ta bouche et pétillent dans tes yeux. Saurais-je te convaincre et qui faudra-t-il vaincre? Quel démon ou quel roi? Pour qu'enfin, comme une reine, ma main sous la tienne, tu n'espères plus que moi. Dans les allées de cèdre, où l'on ira se perdre, sur des chemins de croix. Partager notre fièvre et poser sur tes lèvres tout l'amour que j'ai pour toi. L'amour a-t-il besoin de tant de préambules? Que se fanent les feux. Nos baisers comme des bulles effleurent nos bouches et pétillent dans nos yeux. Sur la grève qui nous tient en émoi. Suffira-t-il de cette missive, cette déclaration hâtive que tu te donnes à moi? L'amour a-t-il besoin de tant de préambules que se fanent les feux? Nos baisers comme des bulles se posent sur nos bouches et pétillent dans nos yeux. Je sais qu'elle est brève, cette valse sur la grève qui nous tient en émoi. Suffira-t-il de cette missive, cette déclaration hâtive que tu te donnes à moi?